Je voulais vous dire à chacun un grand bonjour, que vous soyez bénis, chacun dans votre vie, votre famille, vos enfants, ceux que vous aimez. Voilà, soyez pleinement, pleinement remplis du Saint-Esprit et que vous soyez voilà, dans la plénitude, dans la joie du Seigneur. Alors, je vais continuer avec le potentiel de Claude Hood. Donc, c'est la deuxième partie. Et aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la confiance et de l'abandon. Donc, je vais faire un petit rappel du message du 17 septembre, parce que il y a une continuité, et donc ce serait dommage de, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier message, d'être séparés de ce lien. Donc, je vais commencer par un rappel historique. Paul est en Turquie, il annonce l'évangile et bâtit des églises au cœur des plus grandes villes. Et cela, ça se passe autour des années 40-50 après Jésus-Christ. Paul a une vision pendant la nuit. Et ça, vous le trouvez au chapitre 16 des Actes des Apôtres, 9 et 10. Paul a une vision pendant la nuit. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La Macédoine, aujourd'hui, c'est la Grèce. Et l'obéissance de Paul à cette vision fit naître l'église de Philippe dans les années 50. Avec 4 nouveaux membres pour commencer. C'est donc une toute petite église et on commence à 4. Il y a Timothée, il y a Lydie, une esclave et un geôlier. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, on vous donne des indications sur le caractère de ces personnes, sur leur vie passée. Et cela m'a permis de faire un parallèle avec ce qu'ont vécu Timothée, Lydie, une esclave et le geôlier, avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre ville, dans notre monde aujourd'hui. Donc Timothée incarne une nouvelle génération de jeunes à l'arrière-plan spirituel incertain. Ils ont dans leur famille des membres qui connaissent le Seigneur, des parents qui sont chrétiens engagés, mais tous ont besoin d'en arriver à leur propre conversion, de décision et d'expérience avec Dieu. On a Lydie, qui incarne toutes les carrières florissantes du succès des possessions matérielles, mais qui, au fond de leur âme, crie « J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus que tout cela. » Elle a un vide que tout son succès matériel ne peut combler. La jeune esclave, dans une version moderne, est une jeune fille qui a grandi dans un contexte familial, social difficile et qui devient victime d'abus et d'exploitation. Cette esclave a 1000 visages, des enfants de guerre aux filles et garçons esclaves du travail ou victimes d'exploitation sexuelle. Elle serait ou il serait celle ou celui qui n'a pas eu de chance. Le geôlier représente toutes ces personnes qui, encore aujourd'hui, ont si peu d'attente que lorsqu'un tremblement de terre frappe leur vie, elles choisissent d'y mettre un terme. Foudroyées par un événement douloureux qui surgit, le suicide leur semble être leur unique sortie. En l'an 60, Paul est à Rome et il est dans un contexte de persécution. Sur ordre de Néron, Paul est incarcéré au seul titre du motif de sa foi. Le voilà prisonnier dans une cellule souterraine aux conditions terrifiantes et sordides. Et c'est là, dans cette prison, dans une cellule souterraine, que Paul écrit l'épître aux Philippiens. Alors, je vous invite à aller voir dans votre Bible au chapitre 1, aux Philippiens, versets 1 à 6. Et c'est ce chapitre-là, on va le garder parce que je vais évoluer tout au long du message sur ce chapitre. Donc Philippiens chapitre 1, versets 1 à 6. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Ici, Paul rend grâce à Dieu et parle de sa joie à cause de l'engagement pris par une poignée de Philippiens à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul donne sa reconnaissance à Dieu pour le souvenir de ce qui s'est passé 10 ans auparavant à Philippe, la naissance d'une église qui ne cesse de grandir. Comme Paul, nous devons nous souvenir des bontés de Dieu qui nous sont données et remercier Dieu. Nous devons chaque jour avoir cette aptitude à engager notre âme et à fortifier notre esprit en passant en revue les bontés de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle le potentiel en devenir qui se trouve en chaque personne qui choisit de suivre Jésus-Christ. Voilà, ce livre, c'est le potentiel. Et il faut bien se rendre compte que nous avons en nous un potentiel qui ne demande qu'à se développer que si on laisse Dieu agir. On revient au verset 6 du même chapitre, chapitre 1. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé. Paul, il écrit en grec. Et ce mot en grec, on l'écrit pietô. Excusez-moi, je suis peut-être pas très bon en grec, mais voilà. Cela pourrait se traduire par « j'ai pleinement confiance ». Donc je parle de la confiance. « Je suis absolument convaincu ». Voilà ce que veut dire « je suis persuadé ». Donc Paul décrit cette confiance absolue que ce que Dieu commence, lui seul a la capacité de le finir. Paul rappelle que par Jésus-Christ, les limites humaines et les sens de loyauté, fidélité et engagement sont redéfinis. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Jamais. Cette vérité doit pénétrer nos cœurs. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Nous devons prendre autorité contre tous les mensonges qui nous assaillent, contre tout ce qui a été dit ou prédit contre nous. Rien ne peut nous séparer de lui. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a commencé. C'est la nature même de notre Dieu. Il n'y a pas de limite au potentiel de transformation qu'il veut et peut accomplir en nous. Notre expérience humaine nous limite, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. C'est une vérité que nous devons saisir et garder au cœur. Elle doit, cette vérité, nous donner une nouvelle vision de qui Dieu est. Nous n'épuiserons jamais son pardon illimité. Dieu a la capacité de nous voir au-delà de la façon dont vous et les autres nous perçoivent et nous considèrent. Alors je vais illustrer mon propos, l'engagement de Dieu a pour nous, avec une petite anecdote. Donc c'est Michel-Ange qui va sculpter son David. On lui rapporte un gros rocher, une grosse masse, une pierre, et il va commencer à travailler dessus. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire, Michel-Ange ? Je suis en train de sculpter le plus beau David que vous n'avez jamais vu. Ah oui, eh oui, 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 mais comment tu vas faire? Moi, ce que je vois ici, ce n'est qu'une pierre. C'est très simple. Je dois simplement enlever tout ce qui n'est pas David. Je dois enlever tout ce qui n'est pas David. La parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et qu'il nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité. Non seulement sur Dieu, sur l'univers, les choses à venir, le ciel, l'éternité, la vérité concernant les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Sur ce qui doit être changé en nous. L'Esprit de vérité nous dévoile ce qui est sous la pierre, ce que personne ne voit encore. On pourrait faire cette prière chaque jour, chacun. Seigneur, par ton Esprit, montre-moi tout ce qui n'est pas Jésus en moi. C'est une prière courageuse, parce que si vous la faites sincèrement, cette prière, le Saint-Esprit vous montre vos blessures, vos manquements, vos faiblesses, tout ce qui ne reflète pas le caractère de Christ et qui, au contraire, ternit votre témoignage et qui menace votre destinée. Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a préparé une vie abondante pour nous. Soyez-en convaincus. Nous devons être renouvelés dans la confiance que chaque jour, le Seigneur Jésus nous dit. Je sais que plusieurs aspects de ta vie ne me reflètent pas. Je sais bien que les gens ne voient pas le potentiel qui est en toi. Même toi, tu ne penses pas être en mesure de changer. Mais, j'ai commencé une œuvre en toi. Mais si tu me fais confiance, je ferai émerger de toi le plus beau potentiel que tu puisses imaginer. C'est important. Soyez convaincus que si vous laissez cette confiance agir en Dieu, il fera émerger le meilleur potentiel de vous-même. Nous sommes tous en construction, en travaux, sur la voie de la sanctification. Si nous faisons confiance à Dieu, il continue indéfiniment, inlassablement, à agir en nous. Ses réserves de patience et de fidélité dans son œuvre rédemptrice et transformatrice pour notre vie, notre couple, nos relations, notre personnalité et notre caractère sont inépuisables. Tout repose sur la décision quotidienne de ne jamais cesser de s'abandonner à Dieu. C'est le rappel du potentiel que Paul adresse aux Philippiens. Si vous voulez continuer à progresser dans votre marche avec le Seigneur, ne cessez jamais de vous abandonner à Dieu. Nous devons mourir si nous voulons vivre. Nous abandonner pour nous approprier l'abondance. Relâcher pour recevoir. Alors on va lire en Philippiens chapitre 1 verset 21, ce verset uniquement qui va nous permettre de comprendre ce que je viens de dire. Philippiens chapitre 1er verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Car Christ est ma vie et mourir est un gain. Un plus, un bénéfice. Un chrétien naît deux fois et ne meurt jamais. Ça, c'est une chose que vous savez. Il naît une première fois physiquement, puis une seconde fois spirituellement. Par la suite, il ne meurt jamais. À la fin de notre vie, sur cette terre, à notre dernier souffle, notre corps physique s'éteindra. Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Dieu et reçu Christ comme sauveur, mourir est un gain. En effet, nous quittons ce monde pour rejoindre notre Dieu. Nous abandonnons notre corps pour être dans sa présence éternellement et entrer dans l'accomplissement ultime de notre potentiel. C'est fabuleux. Paul nous rappelle cette espérance que si Christ est notre vie, mourir est un gain éternel. Est-ce que vous entendez? Si Christ est notre vie, si Christ est en moi, nous pouvons faire aussi cette prière chaque jour. Seigneur, donne-moi aujourd'hui plus de Christ en moi. On va continuer la lecture, on revient au chapitre 1, versets 21 jusqu'à 24. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. On comprend avec ces deux versets que Paul a deux pensées. La première, c'est qu'il désire s'en aller et d'être avec Christ. Et la seconde, c'est qu'il doit mourir à lui-même. C'est-à-dire qu'il doit abandonner son désir de s'en aller pour être avec Christ, car à cause des gens de l'église de Philippe, il doit continuer à vivre ici-bas. Paul révèle à tous ceux qui ont le désir de développer leur plein potentiel, mourir est aussi un gain dans le présent, dans cette vie. Lorsque chaque jour nous choisissons de nous abandonner à Dieu, nous mourrons à nous-mêmes. Nous mourrons à notre orgueil, à notre façon de réagir, à notre endurcissement, à notre peur, notre honte. Je veux mourir à moi-même. Nous voulons mourir à nous-mêmes afin de gagner le potentiel que le Seigneur a pour nous, a pour moi. Mourir à ce qui me semble impossible, mourir aux situations que nous considérons comme perdues, mourir à notre incrédulité parce que Dieu a un gain de foi pour nous. Être chrétien, c'est s'abandonner entre ses mains, entre les mains de Jésus, et de lever le drapeau blanc. Je lève le drapeau blanc. Voilà. Alors Seigneur, voilà, je lève le drapeau blanc. Mais il faut savoir que le drapeau blanc, aujourd'hui, c'est « je rends les armes ». Or, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Au XVIIe siècle, lever le drapeau blanc ne signifiait pas rendre les armes, ne signifiait pas capituler ou lâcher, abandonner, abdiquer. C'était de se battre. Non. Au XVIIe siècle, lors des guerres de religion, le drapeau blanc, sans ornement, évoquant la pureté, devint le symbole du pouvoir royal. À partir de ce moment, le drapeau des régiments fut entièrement blanc. Cela signifiait que le corps des combattants appartenait à l'armée royale. Les vaisseaux de la marine royale française arboraient des pavillons blancs dépourvus de tout autre motif. Lever le drapeau blanc signifiait au contraire que l'on voulait s'engager dans le combat. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, à vous et à moi, que le potentiel se découvre et se développe lorsque nous levons le drapeau blanc qui annonce le roi. J'appelle donc chaque croyant à faire cette déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je lève le drapeau blanc pour me rappeler que le roi est avec moi et qu'il combat pour moi. Je lève le drapeau blanc qui annonce le roi qui est en moi. Je lève le drapeau blanc contre mes ennemis, contre mes dépendances, contre mon passé, contre mes limites. Et je déclare le règne de Dieu dans ma vie parce que je crois que si le Seigneur a commencé une œuvre en moi, il l'achèvera. Je lève le drapeau blanc, Seigneur, pour te remettre mon combat, pour arrêter de me battre contre toi. Je veux arrêter de te résister, de te limiter, de refuser, de repousser les transformations que tu veux faire en moi. Tu as commencé une œuvre et tu n'en as pas fini avec moi. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Alors, il y a une question qui me taraude. Et la question est, combien de temps vais-je résister à Dieu? Combien de temps allez-vous résister à Dieu? Quand allons-nous nous abandonner à lui et lever le drapeau blanc pour suivre notre roi. L'église de Philippe a commencé avec Timothée, Lydie, une jeune esclave, et un geôlier. Ces quatre personnes ont levé le drapeau blanc et ont suivi le roi. Qu'en est-il pour nous ? Vous êtes Lydie. Comme elle, votre cœur a été plusieurs fois touché par l'Évangile. Vous aimez son message et ses valeurs, mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à plus, à une décision personnelle. Arrêtez de vous battre, de lui résister. Abandonnez-vous à Dieu. Vous êtes Timothée. Comme lui, vous êtes en contact avec l'Évangile depuis des années. Des gens vous ont parlé de Dieu, de sa parole. Vous avez de la famille ou des amis chrétiens. Mais vous devez prendre votre propre décision de vous abandonner à Dieu. Vous êtes esclave ou geôlier. Quelque chose s'est endurci en vous depuis des années. Vous pensez ne plus pouvoir échapper à votre condition de souffrance intérieure. Dieu vous appelle à vous tourner vers lui, à lever le drapeau blanc, à lui soumettre votre souffrance et vos captivités. Jésus promet qu'il y a un potentiel de libération, d'apaisement et de guérison pour celui ou celle qui décide de lever le drapeau blanc. Voilà, je vais conclure par une prière. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Priez pour vous-même, que cette prière soit pour vous ou elle soit pour une autre personne. Soyez libre. Ah, Seigneur Jésus, par ton esprit, montre-moi tout ce qui n'est pas de Jésus en moi. Seigneur, enseigne-moi comment m'emparer du potentiel que tu as pour moi. Apprends-moi à cultiver et développer un cœur qui se rappelle tout ce que tu as fait moi. Aide-moi à réaliser tout le potentiel que représente ma conversion. Apprends-moi à te faire confiance, à croire et à saisir cette promesse que tu achèveras parfaitement ce que tu as commencé en moi. Guide-moi dans cette marche chrétienne courageuse où je choisis chaque jour de mourir à moi-même pour être enrichi du gain que tu me réserves. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.